demander à M. Castoriadis de voir ce qu'il entend par rationalité. Et puis deuxièmement, pourquoi il qualifie la maîtrise rationnelle du monde de pseudo-rationalité.
Je crois qu'il vaut mieux répondre tout de suite, quitte à ce que de chaque côté on se mette d'accord pour ne pas monopoliser l'intervention.
Bon, moi je ne vais pas donner des définitions, je prendrai un exemple. Je pourrais en prendre deux d'ailleurs. Je les prendrai. J'entends par rationalité entre guillemets l'organisation d'une usine à l'heure actuelle. C'est-à-dire, on est supposé avoir des gens qui sont des ingénieurs qui ont calculé les machines, des ergonomes qui ont calculé la position des ouvriers, les rythmes de travail, des chronométreurs, tayloristes renouvelés ou pas, etc., qui ont trouvé the one best way de faire un travail, la seule voie rationnelle, etc., etc. Et même maintenant, article dans le Figaro d'il y a 4 jours, la psychanalyse dans l'entreprise, dans 3 mois, on règle les problèmes d'adaptation des cadres. Quant aux patrons, eux, ils n'ont pas besoin de psychanalyse, c'est littéral dans le Figaro. Parce que comme l'entreprise leur appartient, ils n'ont pas une question de rapport avec la mère ou je ne sais pas quel connard. Bon. Alors, la psychanalyse, c'est une chose fantastique, énorme, profonde. Ça, c'est la rationalité mettant la psychanalyse, une pseudo-psychanalyse, au service d'eux. Pourquoi cette maîtrise est une fausse maîtrise? Eh bien, parce que ce serait peut-être long à dire. Si une usine capitaliste fonctionne, elle fonctionne parce que les ouvriers n'appliquent pas les règles de son fonctionnement. À preuve, si vous voulez mettre l'État belge par terre, convainquez tous les fonctionnaires à faire la grève du zèle et à appliquer littéralement les règlements qui sont censés appliquer, qui sont l'incarnation de cette rationalité bureaucratique capitaliste. S'ils les appliquaient littéralement, ça ne marcherait absolument. Une usine ne marche que dans la mesure où les ouvriers constamment trichent et luttent avec les règles établies de la production. On pourrait prendre un deuxième exemple qui serait plus grandiose, mais enfin, peut-être on peut laisser pour l'autre discussion. L'autre exemple, c'est la rationalité de la guerre et de la destruction mutuelle assurée. Si vous lisez les stratèges et les généraux, vous verrez les démonstrations par A plus B, et c'est le discours général, que, étant donné la capacité dite d'overkill, enfin de surmeurtre, n'est-ce pas, de chacun des adversaires par l'autre, désormais, les comportements des états-majors et des directions des états ne peuvent qu'être absolument rationnels. Bon, alors, ça, c'est une phrase que nous pouvons tous inscrire quelque part pour être enterré avec le jour J ou grâce à la rationalité des états-majors, n'est-ce pas? La guerre qui était rationnellement impossible grâce à l'équilibre rationnel de la terreur et aux simulations en temps réel sur les ordinateurs de part et d'autre de ce qui se passerait si les Russes lançaient ça et les Américains lançaient ça, le jour où cette guerre se déclenchera.
Oui, là-bas tout en haut.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur le premier exemple que vous avez pris à propos de l'ingéniosité, disons, des ouvriers dans une usine pour la faire fonctionner. Je crois que c'est tout à fait vrai. J'ai été quand même pas mal de temps dans une usine, donc j'ai pu le constater. Mais je le vois, moi, comme un indice de l'adhésion très profonde des gens au système. Et je crois que les explications qu'on a faites, que vous avez données ou à peine effleurées là-dessus, sont peut-être un peu courtes. Parce que Il y a des raisons pour lesquelles les gens adhèrent au système jusqu'à maintenant. C'est que on a dit qu'il ne fallait pas se concentrer sur les besoins économiques primaires pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui ils sont satisfaits et qu'on n'a pas encore d'exemple d'autres systèmes sociaux qui les aient satisfaits. Il se trouve que les gens savent maintenant quand même un petit peu plus ce qui se passe dans le reste du monde et ils constatent que bon, le système qu'il y avait avant en Iran, celui qui l'a remplacé, dans tous les cas de figure, par exemple, il n'a pas encore donné à tout le monde à manger, à tout le monde une maison et une espérance de vie qui dépasse 30 ans en moyenne. Donc, une des raisons de l'adhésion profonde qu'on constate, et le fait que ce sera très difficile de la faire changer, est peut-être que les gens n'ont pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ils se disent, bon, les embouteillages, c'est complètement idiot. La chaîne IFI, j'en ai pas vraiment besoin. Les vacances au Baléares, c'est très populaire ici, j'en ai pas vraiment besoin non plus. Mais ça fait tourner la baraque, et c'est grâce à ça que je bouffe et que j'ai pas froid l'hiver quand il fait moins 20 degrés. Et ils ne sont pas persuadés qu'il existe une alternative réelle à ça. En tout cas, ils n'en ont pas encore vu.
Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'ils ne sont pas convaincus. Je suis d'accord avec vous sur le fait que le problème est d'une complexité pratiquement infinie. Vous touchez plusieurs aspects. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'ailleurs c'est ce que Daniel Cohn-Bendit disait aussi tout à l'heure, sur le fait que les gens ne sont pas convaincus de l'existence et même de la possibilité d'une alternative. Moi-même je parlais de la question consistant à savoir si les gens ont la capacité et la volonté de changer le système. Cela dit, quand vous parlez du bébé et de l'eau de la baignoire, je crois que vous... Là, vous avez une image, excusez-moi, un peu superficielle, comme si tout ça procédait d'un choix rationnel. Moi, je parlais d'adhésion des gens au mode de vie du système. Je ne pense pas que vous, votre image, si on la prenait au pied de la lettre, je ne veux pas faire de la polémique, n'est-ce pas ? Comme quoi, la grande majorité de la population fait dans sa tête un calcul rationnel et se dit... c'est vrai que le système est merdique, mais c'est le moins merdique possible, ce qui peut-être serait à discuter d'ailleurs, enfin c'est pas... Bon, pas comme ça. Mais je ne crois pas que c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe avec, à des niveaux très importants, une véritable adhésion à ces valeurs, et ça on le voit dans une série de réflexes dans la société. Pour ce qui est de l'usine, bon, c'est très compliqué parce que quand les ouvriers font fonctionner l'usine, il y a toute une série de choses. Il y a le fait que si l'usine ne fonctionne pas, qu'il y ait règle de la direction ou qu'il n'y ait pas règle, c'est quand même sur leur dos que ça retombe. C'est-à-dire qu'il faut que le nombre de pièces soit fait, il faut que le truc soit fait, ou il faut avoir un bon prétexte, une bonne raison pour que ça ne soit pas fait. Il y a quand même toujours encore une sorte, bon, pas dans tous les travaux, mais même dans les usines, une sorte de, comment dire, je ne sais pas si on peut l'appeler, enfin, de conception du travail, enfin, on bougie pas ce qu'on fait, etc. On a même les restes de l'honneur professionnel, il y a une pression du groupe, mais l'essentiel là-dedans, c'est effectivement que l'usine, comme l'armée d'ailleurs, elle ne fonctionne que dans la mesure où là où il ne faut pas, on n'applique pas les règlements. Et ça, c'est dans l'usine en particulier, la moitié du temps.
Une question là-bas. Oui. À qui ça, la question?
À monsieur.
Oui, d'accord.
Alors, ça, c'est un traitement inégalitaire. Parce que moi, je suis monsieur... C'est une autre différence.
Si vous voyez les signes d'une nouvelle culture, et si vous en voyez, la voyez-vous par le monde entier, bien se localiser
Mais moi, ça, c'est la question que je suis venu poser à cet auditoire.
Voilà.
Ouais, vous êtes 700 ou 600 ou 800, je ne sais pas combien, vous en savez beaucoup plus que moi.
Oui, une question là-bas.
J'en ai plusieurs.
Ouais. Une d'abord.
Je voudrais poser une question là-bas, c'est pour la compagnie. Il y a une chose qui m'a frappé dans ce que dit Castelladis, c'est le rôle du savoir, le rôle central du savoir comme mythe à l'intérieur de la société. Moi, ce qui me frappe dans le mouvement écologique, c'est effectivement, comme le dit Castoradis, qu'il s'attaque à un terrain qui est le terrain de quels sont les besoins que la société estime devoir être satisfaite. Mais j'ai l'impression un peu qu'il y a une question qui est évacuée là-dedans, c'est que devient le savoir ? Que devient le savoir au niveau du mouvement écologique ? Je mets ça en rapport avec la remarque que Castoradis faisait sur le théorème de Pythagore, qui s'est transformé en 2500 ans, mais qui continue à jouer un rôle. Ce savoir, le savoir actuel, le savoir technique, en admettant qu'il perde sa place centrale technique, qu'est-ce qu'il pourrait devenir dans une autre société, dans un autre projet ? Quelle pourrait être sa place, en admettant qu'il quitte la place imaginaire de... J'ai cru remarquer dans l'intervention que vous avez dit qu'il voyait une voyait sur le même terrain les manifestations antinucléaires, l'écologie et l'existence de communautés. J'ai cru même remarquer qu'en fait le point central c'était ces communautés comme mode de vie alternatif. Je voudrais qu'il développe ça parce qu'il a fait qu'effleurer et j'ai pas bien compris. Alors, à notre point, tu parles des différences, enfin, de traiter la différence individuelle comme point central du programme politique. En même temps, tu donnes comme exemple une révolution, la révolution iranienne, qui, à mon avis, ne prend pas comme point central les différences individuelles.
J'ai pas pris comme exemple.
Non, vraiment.
Un mal exemple, c'est un fait.
Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ce modèle alternatif basé sur les différences individuelles, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que ça apparaît vraiment comme quelque chose d'historiquement contingent à la situation ici, maintenant, ou en Amérique, éventuellement en Russie. Et c'est quelque chose qui me paraît presque incompréhensible pour le reste du monde. Quel est le statut de ce projet alternatif qui mûrit dans une partie du monde, enfin, qui a comme ça, quoi.
Deux trucs. D'abord, si tu as senti que je prends les communautés comme le point central, j'ai fait une erreur. C'est pour aller vite. Quand on dit mode, on dit toujours mode de vie, il y a des tas de formes, hein, et une des formes très concrètes, c'était pour citer l'exemple, le problème entre vivre en communauté, c'est-à-dire rupture avec la famille traditionnelle, et en même temps, ce besoin de famille, quand on a des gosses et tout ça, c'est-à-dire, on dit on est autrement, et on s'aperçoit qu'on l'est, et on ne l'est pas. C'était juste pour cet exemple. Le mode de vie, si tu veux, il va effectivement de la remise en cause du travail tel qu'il est, c'est-à-dire de réintégrer, non pas dans l'avenir, dans la société socialiste seulement, mais de réintégrer la création aujourd'hui comme étant effectivement une nécessité, un besoin de vie. Et donc de diminuer... de lutter, de se soustraire, si l'on peut, à la logique capitaliste du travail pour gagner son terrain créatif. C'est un peu, c'est, si tu veux, c'est pour moi, c'est, ça, ça serait fondamentalement le point central, non pas les communautés, si tu veux. Mais les communautés sont, si tu veux, la forme de vie aussi quotidienne, donc qui ont une importance, non pas centrale, mais fondamentale. Pour ce qui est, si tu veux, de l'exemple iranien, si je te dis que, justement, au contraire de toutes les bêtises qui ont été dites sur la révolution vietnamienne, c'est-à-dire la révolution vietnamienne comme l'exemple de la société de nos rêves, tels qu'on a pu, ont pu être écrits dans les tracts des comités Vietnam de base, si on lit aujourd'hui tout ce que sera la société vietnamienne, chapeau, hein, mais il faut voir ce que c'est. Donc, je dis, Pour moi, le problème de la révolution iranienne nous permet enfin de discuter d'une chose. Il ne s'agit plus d'adhérer ou de ne pas adhérer à cette révolution. Ce n'est pas notre problème. Hein? Et moi, je le dis franchement. Par exemple, il y a des tas de gens qui se posent le problème de la prise d'otage de l'ambassade américaine. Alors moi, de deux choses, je dis. Effectivement, ma réaction, je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose à ces otages. Parce que je trouve ça complètement ridicule, les Américains sont battus. Bon, d'un côté. D'un autre côté, je l'avoue franchement, moi j'ai eu un rêve au début des années 80. L'Afghanistan envahi par les Russes, les Iraniens envahissent l'ambassade russe, 40 otages américains, 40 otages russes, ils font des groupes de 5 et ils les mettent ensemble. Allez, discutez les enfants, on n'a rien à voir avec vos histoires. Ça, ça aurait été l'ère de la politique punk du Troisième Monde. Ça poserait des problèmes, je dis simplement comment les choses me viennent dans la tête. Maintenant, je ne veux pas le défendre politiquement. Hein, je ne suis pas en Iran, je critique, je discute, mais la chose quand même fondamentale, alors pour moi dans l'exemple iranien, c'est pas effectivement la différence, c'est pas donc un exemple de révolution pour moi, mais c'est cette capacité de renverser un pouvoir qui était quand même défini. Et là, relisons tout ce que nous avons écrit sur le pouvoir dictatorial militaire du Shah, comme étant effectivement, avec sa torture et tout ça, capable de tenir indéfiniment. Et qu'il y a beaucoup d'étudiants iraniens à Francfort, mais 2 mois avant le renversement, ils me disaient « ça durera encore 20 ans hein, ». Ils le pensaient réellement. Et c'était des marxistes qui faisaient des analyses très profondes. Il y avait des choses intéressantes. Et oui, ça s'est passé autrement. Bon, c'est tout ce que je dis là-dessus, hein. Le dernier point, c'était sur... Voilà. Alors là, effectivement, ça, c'est un des grands problèmes. C'est-à-dire que après la théorie marxiste traditionnelle, la révolution se fait dans les États les plus développés. Hein? C'est-à-dire la révolution se fera en Allemagne ou en Angleterre, ou pas du tout. Il y a eu le processus inverse.
Ou en France, quand
ou
même.
Ou en France, en France.
Allez, allez.
Allez, allez, oui. Il le disait, ouais, c'était compliqué chez lui. Hein, ça ne s'est pas passé comme ça, l'Union soviétique, et puis après, le tiers-monde. Il y a eu le revirement des révolutions, c'est l'encerclement des villes par la campagne, l'encerclement du monde capitaliste, qui chavirera par les luttes de libération du tiers-monde. Et je dis que les deux théories ne tiennent pas debout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un modèle de révolution se forme et se développe dans chaque culture. Ce modèle ne peut être hégémonique à l'extérieur de cette culture. Et il existe des cultures totalement différentes. Essayez de comparer les processus révolutionnaires pour décider lequel est le meilleur en France, dans les pays arabes, aux États-Unis ou en Australie, c'est aberrant. Et ça nous fait avancer de rien du tout. Le problème que tu poses, qui est effectivement, nous vivons dans des pays impérialistes, donc nous vivons des biens de l'impérialisme. Ça, c'est évident. Prenons l'exemple de la contre-culture allemande. En travaillant dans une librairie alternative ou dans des collectifs alternatifs, nous pouvons facilement travailler 3 jours par semaine et gagner 1000 marques par mois. Ce qui est vivre en communauté, c'est-à-dire on vit à 8 ou à 10 avec des gosses, c'est vivre très bien. Alors, un ouvrier, tout ça, doit gagner beaucoup plus. Hein, il doit gagner le double, il travaille le double et tout ça, mais dans notre forme de vie est effectivement beaucoup plus rationnelle. Je veux dire que 1000 marques par mois, je ne sais pas combien ça fait de francs belges, ça vaut, hein, 15 000 je crois. Et avec 1000 marques, partir en vacances un mois dans les pays du tiers-monde, nous sommes des impérialistes, c'est évident. Et je veux dire que le problème, effectivement, qui se pose là, c'est qu'est-ce que nous, la question que je me pose, nous allons chercher dans ces pays. Et effectivement, l'influence culturelle, pour des tas de raisons bonnes ou mauvaises, je ne veux pas venir là-dessus, des pays du tiers-monde, sur les mouvements ici, va, enfin des pays, disons, des mythes, des mystiques et tout ça, va grandissant. Et ce que nous n'avons pas trouvé, c'est effectivement un nouveau discours anti-impérialiste. Et je crois que c'est un des problèmes que doit se poser le mouvement écologique. Il y a une tendance, je ne sais pas si vous connaissez Harish et la droite, ce que j'appelle la droite stalinienne du mouvement écologique, qui a Groul surtout aussi, qui est un ancien... Alors, il y a un ancien chrétien démocrate, Groul, et un ancien stalinien, Harish, qui vient de l'Est, qui ont fait deux livres qui se ressemblent comme par hasard, et leur solution au problème écologique, c'est effectivement la dictature mondiale. Ils disent qu'il n'y a pas d'autre solution, les meilleurs en haut, et ils décideront de l'utilisation rationnelle de nos ressources pour tout le monde. Ils les répartiront et tout ça. Donc, il y a un danger là-dedans, et je crois qu'il y a une partie de la lutte des pays du tiers-monde, c'est de partir à la conquête d'un développement. Et une partie de la lutte des pays impérialistes, c'est d'imposer un développement. Et comment peut-on justement court-circuiter ce discours entre pouvoir impérialiste et nouveau développement du tiers-monde, c'est-à-dire d'arriver à un débat entre ceux qui se développent et ceux qui subissent le développement capitaliste. Parce que là, effectivement, nous avons peut-être des choses à dire. Hein? Tu sais très bien, je ne sais pas si tu le sais, le grand mot d'ordre en Allemagne de l'Est, c'est dépasser le système capitaliste. Le dépasser dans toutes ses horreurs. Hein? Et je crois que, un peu, les problèmes du tiers-monde, c'est que souvent, c'est ça leur modèle. Et nous, justement, à l'intérieur de ce système, nous devons trouver les moyens de... Ça a été pratiquement nul jusqu'à présent. Il y a eu, autour de la FAO et des critiques du Grand Congrès à Rome, il y a eu des débuts comme ça. Et je crois que là, l'avenir, si tu veux, politique est devant nous. Parce que le rejet de l'ancien anti-impérialisme tel qu'il a existé nous a fait oublier l'impérialisme. Et le nouvel anti-impérialisme, non pas la nouvelle philosophie, mais le nouvel anti-impérialisme, c'est-à-dire autrement structuré, est effectivement à l'ordre du jour aussi pour le mouvement écologique. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur.
Une minute ici pour la réponse.
Oui, je répondrai à notre ami qui a parlé. Je voulais quand même dire un mot à propos de ce que vient de dire Dany, non pas pour instaurer une discussion ici, ce n'est pas la question. Parce qu'on parle trop déjà tous les deux, je crains pour ma part qu'il n'y ait le risque que ce que tu dis... Je crains pour ma part qu'il n'y ait le risque que ce que tu dis, ou alors c'est moi qui te comprends mal, fasse entendre que chaque pays a sa culture et sa problématique révolutionnaire, et au nom de valeurs que nous partageons, c'est-à-dire de la liberté, de la reconnaissance de la différence, moi je dis même pas différence, je dis la reconnaissance de l'altérité des autres, bon, ben, c'est leur problème. Je crois qu'il faut apporter des restrictions, enfin, pas des restrictions, que ce n'est pas si simple que cela. Moi, j'ai toujours été et je demeure, au sens véritable du terme, internationaliste. Ce mot aussi, comme tous les autres, a été prostitué. Par exemple, de même que le monde titrait il y a 2 ans ou 1 an et demi son reportage à Kaboul, la révolution socialiste afghane est en marche. Hein? C'était la révolution socialiste afghane. De même, lorsque Marché est allé à Moscou pour dire, les Russes à Kaboul, c'est naturel, non? Bon. Le Monde a titré, le Parti communiste reprend ses positions internationalistes. Hein? C'est-à-dire être à la botte de Moscou, c'est être internationaliste dans la parlance officielle actuelle. Je ne suis pas internationaliste dans ce sens-là. Je le suis au sens tout à fait opposé, bien entendu, c'est-à-dire pensant que chaque culture, que toutes les cultures ont une valeur égale ou mieux incomparable, que bien entendu chaque collectivité, chaque nation, chaque peuple a trouvé sa voie, mais que incontestablement aussi, il existe deux faits créés par le capitalisme lui-même d'ailleurs. Une société mondiale et une histoire universelle, non plus dans un sens simplement formel, c'est-à-dire la somme des actes des bipèdes parlants qui ont constitué des communautés en Papouasie, dans les forêts allemandes, en Grèce, chez les Iroquois, etc. Mais une histoire mondiale contradictoirement unifiée et où toutes les cultures et les peuples sont en interaction. C'est quand même, tu parles de la révolution iranienne, c'est quand même fantastique de voir à la fois l'invocation perpétuelle, je ne discuterai pas maintenant ni de sa valeur ou de mon attitude, ni de sa profondeur et authenticité qui doit être certainement grande, l'invocation perpétuelle du Coran, de sa législation d'ailleurs, au nom de la lutte pour la liberté et contre l'impérialisme, et en même temps, l'utilisation fantastiquement efficace, par exemple, par les étudiants qui ont pris des otages, de la radio, de la télé, des moyens de propagande, de la mise en scène, du spectacle. Bon, les Américains, je crois, ont été obligés d'arrêter les émissions télévisées qu'ils prenaient à Téhéran, parce que les étudiants avaient réussi à s'emparer de ce média ultramoderne, et de l'utiliser mieux que les professionnels américains pour leur cause. Alors nous sommes bêtement habitués au fait que n'importe quel Afghan ou Rhodésien peut prendre un fusil mitrailleur ou un Kalachnikov, être très expert à le manier. Nous sommes plus étonnés quand ils utilisent les autres moyens techniques. Le fait est qu'ils les utilisent et le fait est qu'il y a une perméation de ce monde par ce qui a été créé dans l'Occident capitaliste. Et, bon, si on parle du problème écologique plus étroit, peu importe, effectivement, que des gens de droite disent que ce qu'il faut est une dictature mondiale, mais moi, ça me paraît tomber sous le sens que le problème écologique est mondial. Bon, il y a un tanker qui va débarquer du pétrole en Norvège et il échoue.